Chapitre 3. Dieu a été trahi par sa famille. L'histoire de l'Israël biblique a été un long et sinueux parcours rempli de triomphes et de tragédies. Dieu n'a pas été surpris. Il savait à quoi s'attendre avec le monde. Il a toujours su à quoi il faisait face. La bienvenue qui s'est détoriée. Dieu a fait savoir à Abraham que l'avenir de ses descendants allait être difficile. Il était honnête. Il a dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Genèse 15, verset 13. C'était la mauvaise nouvelle. Dieu a donné un peu d'espoir, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Genèse 15. Verset 14. Certainement, les descendants d'Abraham, conduits maintenant par son petit-fils Jacob, dont le nom est devenu Israël, se sont finalement retrouvés en Égypte, sous l'ordre du Pharaon. Exode 1. Ils y étaient allés là avec l'approbation de Dieu pour échapper à une famine. Genèse 45, versets 5 à 11. Ils ont eu tort de ne pas retourner dans le pays que Dieu leur avait donné après la fin de la famine. Ils sont restés trop longtemps en Égypte. Durant leur séjour en Égypte, la nation d'Israël a grandi en nombre, à un tel point que Pharaon est devenu paranoïque de ne pas pouvoir rester en charge du pays. Exode 1, versets 8 à 10. Il les a assignés à des travaux forcés et à exterminer les nouveau-nés s'ils étaient des garçons. Exode 1, versets 14 à 16. Mais Dieu est intervenu et les a rendus encore plus forts. Exode 1, versets 8 à 21. Tout compte fait, Israël a passé 4 siècles en Égypte dans des conditions difficiles. Éventuellement, Dieu est intervenu et a préservé la vie d'un petit garçon nommé Moïse. Dieu a manipulé les circonstances pour que le bébé soit élevé dans la propre maison du Pharaon, justement en sa présence. Exode 2, versets 1 à 10. Moïse mena une vie de privilège, mais un jour, il a commis un crime capital, assassinant un homme lors d'une bagarre qui avait commencé par la défense d'un Israélite. Il a fui l'Égypte pour échapper à la justice. Moïse a trouvé une nouvelle vie dans un lieu désert appelé Madian. Dieu l'a rencontré au mont Sinaï dans un buisson ardent. Une rencontre qui allait changer l'histoire de son peuple et du monde. Exode 3, versets 1 à 15. Dieu a renvoyé Moïse en Égypte pour affronter Pharaon. Il devait demander la libération du peuple de Dieu. Dieu a promis de protéger Moïse et de lui donner l'autorité. Exode 3, versets 16 à 22. Le reste de l'histoire est l'une des plus célèbres au monde. Même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous en avez probablement entendu parler ou vu un film à ce sujet. Dieu a envoyé des plaies contre l'Égypte et c'est Dieu lorsque Pharaon a refusé de laisser partir les Israélites. Exode, chapitre 7 à 12. Dieu a utilisé Moïse pour forcer la libération d'une multitude d'Israélites de l'esclavage égyptien. Il a séparé la mer Rouge pour les sauver lorsque les Égyptiens ont décidé de les chasser dans le désert pour les massacrer. Exode, chapitre 13, verset 17, jusqu'à Exode, chapitre 14. La traversée de la mer Rouge est de loin le miracle le plus spectaculaire de la Bible. Mais ce n'était pas du spectacle. Il s'agissait de préserver un peuple. Dieu voulait sa famille. Loi et loyauté. Éventuellement, Dieu a ramené son peuple à l'endroit où il avait parlé à Moïse. Là, il a donné aux Israélites ses lois, les 10 commandements. Il a fait une alliance avec eux. Il est important de réaliser qu'Israël était déjà le peuple de Dieu avant que les 10 commandements soient donnés. Dieu s'était référé au peuple comme sa famille lorsque Moïse s'était affronté à Pharaon. Exode, chapitre 3, versets 7 et verset 10. Chapitre 4, verset 23. Chapitre 5, verset 1, chapitre 6, verset 7 et chapitre 7, verset 4. Les lois ne visageaient pas à gagner une place dans la famille de Dieu. Les Israélites étaient déjà la famille de Dieu. Nous devons élaborer cette distinction, c'est très important. Au lieu de gagner une place dans la famille de Dieu, Dieu a donné à son peuple des lois afin de démontrer qu'il voulait faire partie de la famille. Les lois de Dieu témoigneraient à Dieu qu'il ne serait pas infidèle et qu'il ne serait pas attiré envers d'autres dieux. Être des croyants fidèles permettrait à Dieu d'utiliser les Israélites pour servir toutes les autres nations comme royaume de sacrificateurs. Exode 19, versets 5 à 6. Dieu voulait l'humanité dans sa famille. Il commençait avec un groupe, Israël. S'ils étaient des croyants fidèles, ils seraient une bénédiction pour toutes les autres nations. Genèse 12, verset 3. Il y a un autre aspect afin de comprendre cette alliance. Les lois de Dieu n'existaient pas pour démontrer assez de bonté afin que Dieu puisse les aimer en retour. Dieu aimait déjà Israël. Deutéronome 7, versets 7 à 8. Il avait permis de manière surnaturelle à Abraham et Sarah, dans leur vieil âge, d'avoir un enfant d'où viendrait, avec le temps, Israël. Avoir une famille était le but principal. Dieu n'a pas créé une liste de règlements afin qu'ils deviennent qualifiés comme famille. Ils étaient sa famille. Les lois de Dieu étaient conçues pour aider ses enfants à éviter les autres dieux et à mener une vie heureuse et paisible les uns avec les autres, et non pour améliorer la disposition de Dieu à leur égard. Fidèle à lui-même, Dieu n'allait pas ignorer leur libre arbitre. Il a simplement demandé qu'ils croient en lui, qui il était, et le fait qu'il les avait créés par amour, et qu'il abandonne les autres dieux. N'importe quel membre d'Israël, s'il le voulait, pouvait abandonner l'amour de Dieu. Il pouvait décider de ne pas croire. Il pouvait décider d'adorer un autre dieu. Tel que nous le verrons, plusieurs ont fait cela. Lorsque les Israélites ont quitté le mont Sinaï, là où Dieu leur avait donné la loi, Dieu les a dirigés en forme d'un homme, un ange, envers la terre promise. Exode chapitre 23, versets 20 à 23, et Juges 2, verset 1. Durant le trajet, le peuple se plaint continuellement de ne pas avoir assez de nourriture ni d'eau. Dieu a fourni. Exode chapitre 15, versets 22 à 27 et chapitre 16, versets 1 à 30. Ils ont dû se battre pour leur vie contre de forts ennemis dans la terre promise. Dieu les a délivrés de la destruction. Deutéronome chapitre 2 à chapitre 3, Josué chapitre 11 à chapitre 12, Psaume chapitre 136, versets 10 à 24, et Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 19. Le cercle vicieux. Vous pourriez penser que les Israélites auraient ressenti un amour profond envers Dieu après avoir amené Israël à la terre promise, que leur loyauté croyante aurait été très élevée. Pas beaucoup. Ils ont décidé, au lieu, que la coexistence avec le mal pourrait fonctionner. Ils ont refusé de chasser les idolâtres, ceux qui adorent d'autres dieux avec des idoles, hors de la terre promise. C'est comme si les Israélites ne connaissaient rien du passé, ni comment la rébellion apporte le désastre. Leur manque de loyauté et leur manque d'amour pour Dieu les amena envers cette scène. Or, un ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim et dit: « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » J'ai dit alors, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Juges, chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu devait juger son peuple, une fois de plus. Il a essentiellement dit, « Je m'en vais. On verra comment vous allez faire tout seul puisque vous ne me voulez pas. » Nous avons déjà vu cela auparavant. Aussi, tel que nous l'avons vu avant, le peuple de Dieu a très mal exécuté sans que Dieu soit présent. Puisque l'histoire se répète, la réponse de Dieu est aussi familière. Il continua à retourner vers Israël pour les sauver des ennuis. Nous connaissons tous des gens comme cela. Peut-être vous êtes l'un d'eux. Nous persistons à aider quelqu'un à cause de l'amour, même jusqu'au point où cela semble irrationnel. Si vous pensez bien à ce que Dieu faisait, ça semble bien insensé. Mais Dieu veut une famille humaine, même quand il n'est pas aimé. Son amour défie la logique. Tout le livre des Juges, d'où la scène si haute provient, est à propos d'un cycle d'une rébellion sans fin, la souffrance qu'elle apporte, criant à Dieu pour de l'aide et Dieu revenant avec amour. Ce cycle a persisté quelques siècles. Ce cycle a, en quelque sorte, atteint son apogée quand la nation d'Israël a demandé que Samuel, un prêtre et prophète, oint un roi pour régner sur eux. Il n'est pas surprenant, le choix du peuple afin d'élire un roi, Saül, était un désastre absolu. Vous savez que les choses ne vont pas bien se passer, ou du moins, vous devriez le savoir, quand le choix d'élire un roi démontre qu'il doit sortir de sa cachette pour effectuer la tâche. 1 Samuel 10, verset 22. Éventuellement, Dieu a choisi David pour remplacer Saül. David était un désastre moral, mais il était meilleur que Saül. Il n'a jamais manqué de fidélité ou d'amour envers Dieu. Il a transgressé plusieurs lois morales de Dieu, mais il s'est repenti et il n'a jamais adoré un autre Dieu. Pour cette raison, Dieu a fait une promesse d'alliance avec David qui fait en sorte que seulement ses fils pouvaient devenir des rois légitimes d'Israël. Cette alliance avait pour but de créer une dynastie pour David. Dieu ne considérait qu'un de ses descendants comme le roi légitime. Tristement, le reste de l'histoire dans la Bible inclut beaucoup d'hommes qui faisaient partie de la bonne descendance, mais qui n'étaient pas aptes à être rois. Dieu a dû enlever plusieurs descendants de David parce qu'ils n'étaient pas fidèles envers lui, en choisissant d'adorer d'autres dieux. Un descendant de David qui prendrait le trône devait aimer Dieu et devait avoir le bon historique familial. C'est pour cette raison que chaque roi devait garder la loi de Dieu avec lui. Deutéronome 17, verset 18. Et 2 Rois, chapitre 11, verset 12. Il devait être le meilleur exemple d'un croyant fidèle. Salomon, le fils de David, était le plus grand roi de l'histoire d'Israël, si les propriétés de terrain et la richesse sont les mesures décisives. Tristement, sa loyauté croyante en Dieu a basculé. Il a sacrifié à d'autres dieux et il a procédé à une série de mariages politiques qui a amené l'adoration de d'autres dieux en Israël. 1 Rois, chapitre 11, versets 1 à 8. En d'autres mots, Salomon a commencé un cycle de compromis spirituel et de rébellion qui a conduit à une ruine nationale. La trahison finale. Suite à la mort de Salomon, 10 des 12 tribus se sont révoltées contre leur successeur. 1 Rois 11, verset 41, jusqu'au chapitre 12, verset 24. Le royaume d'Israël était divisé en deux parties, par tribu et géographie. La famille de Dieu était maintenant un foyer désuni, en quelque sorte. C'est vraiment triste que plusieurs rois, sortant de cette période, n'eussent jamais vu une copie de la loi de Dieu. 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 13. La partie nord de la nation divisée, les 10 tribus qui se sont rébellées politiquement, s'est immédiatement plongée dans la rébellion spirituelle. 1 Rois, chapitre 12, versets 25 à 33. Au lieu de démontrer la loyauté croyante envers le Dieu qui leur avait donné la terre et qui les avait spirituellement amenés en existence, la plupart d'Israël a trahi Dieu. C'est pour cette raison que les prophètes qui prêchaient en se promenant dans les contrées durant ce temps ont comparé la rébellion spirituelle telle que « ils se prostituèrent par leur action » et « l'adultère spirituel ». C'était une analogie vivide. La partie sud du pays, deux tribus, ont connu une rébellion spirituelle plus lente. Mais le péché graduel est tout de même un péché. Abandonner Dieu ne fait jamais fonctionner les affaires. Tout comme la Bible le dit à un endroit, « Sachez que votre péché vous atteindra. » Nombre, chapitre 32, verset 23. Tout comme il l'avait fait en d'autres occasions, Dieu a laissé son peuple satisfaire son libre arbitre et payer les conséquences. En 722 avant Jésus-Christ, la partie nord de la nation a finalement été envahie par un peuple que j'aime appeler les Klingons de l'Ancien Testament, les Assyriens. Si le Seigneur des Anneaux vous est plus familier que Star Trek, considérez les Assyriens comme les hordes du Mordor. J'aime les analogies puisque les Assyriens avaient une réputation de cruauté bien méritée. Ils ont dispersé les 10 tribus à travers tout l'Ancien Monde, brisant des familles et volant tout ce qu'ils possédaient. Les 2 tribus restantes dans la partie sud de la nation ont été conquises par les Babyloniens un peu plus d'un siècle plus tard, en 586 avant Jésus-Christ. Des milliers d'Israélites ont été exilés à Babylone par force. Soyons honnêtes. Si Dieu avait oublié son peuple jusqu'à ce point, on comprendrait. Il s'était rebellé encore et encore pendant plus de 1000 ans depuis le temps d'Abraham. Il est difficile de conclure qu'ils ont reçu ce qu'ils méritaient, mais ce n'est pas la façon que Dieu fonctionne. Au lieu d'abandonner, Dieu a décidé qu'il voulait quand même une famille humaine. Mais avoir son peuple et le reste de l'humanité dans sa famille demanda un changement de tactique. Dieu avait fait une série d'alliances avec son peuple, mais les gens ne sont évidemment que des humains. Ils échouent beaucoup et avec une régularité prédictible. Le reste de l'humanité avait été assigné à des êtres surnaturels, les fils de Dieu, Deutéronome, chapitre 32, verset 8, qui étaient maintenant devenus ennemis de leur Créateur, le Dieu d'Israël. Les affaires étaient compliquées. Dieu avait une solution à 2 étapes dans tout ceci. Quand les derniers enfants de la famille de Dieu étaient près de l'exil, Dieu demanda à 2 prophètes, Jérémie et Ézéchiel, de dire au peuple qu'ils n'étaient pas complètement oubliés. Dieu allait faire une nouvelle alliance avec ses enfants, l'une marquée par la venue de l'Esprit, Jérémie 31, versets 31 à 34, et Ézéchiel 36, versets 22 à 28. Il allait avoir un nouveau jour. Mais ce nouveau jour n'a pas décrit comment Dieu allait respecter les alliances passées sans les éliminer ni les changer. Plusieurs Israélites ont rejeté Dieu et ont adoré d'autres dieux. Ils l'ont méprisé en désobéissant ses lois. Ceci causa du chagrin à Dieu. Il voulait honorer ses promesses, mais plusieurs de ses enfants avaient été séduits à adorer les dieux des autres nations. C'était le chemin de la mort. Rappelez-vous, dû à ce qui était arrivé en Éden, chaque être humain était destiné à mourir et à ne pas avoir la vie éternelle à moins de se retourner vers le vrai Dieu et croire en son amour et ses promesses. Beaucoup trop d'Israélites ont oublié tout cela. Ils ne pouvaient pas seulement choisir des dieux quand ils en avaient envie, comme si c'était un buffet spirituel. Ils devaient croire dans le vrai Dieu et continuer à croire. La situation est devenue surtout problématique avec les rois d'Israël. Dieu avait promis à David que ses descendants allaient hériter le trône, mais plusieurs se sont éloignés de lui. Dieu ne pouvait pas ignorer ce manque de loyauté croyante. Il ne pouvait pas non plus mettre de côté sa promesse. Ceci serait comme admettre que le tout était une mauvaise idée. Et un Dieu qui connaît tout ne peut pas avoir une mauvaise idée. Alors, comment Dieu pouvait honorer ses promesses à un peuple qui l'avait rejeté et qui s'était séparé de lui? Il avait besoin d'un nouveau cœur. Ils avaient besoin de sa présence pour les guider. Ce qu'ils avaient besoin était un descendant d'Abraham et de David qui allait devenir l'ultime roi et l'imageur parfait de Dieu. Ce descendant allait aussi avoir besoin de primer sur la malédiction de la mort sur la race humaine. Mais comment un simple humain pourrait conquérir la mort? Il aurait besoin d'être Dieu aussi. Comment pourrait ceci fonctionner? Pas de problème.